Chers frères et sœurs, l'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste un imbécile malheureux. C'était Georges Bernanos qui, par cette petite phrase, remettait les pendules à l'heure à propos de notre attitude face à l'existence. Pourquoi l'optimiste et le pessimiste sont-ils des imbéciles ? Parce que ni l'un ni l'autre ne sont à la mesure du tragique de l'existence. « Tout finira par s'arranger », dit l'un. « C'est la catastrophe, il n'y a pas de raison que ça change », dit l'autre. Et volontiers aujourd'hui, nous lui donnerions raison. Mais l'un et l'autre oublient une chose, la présence de Dieu. Où il existe, il n'intervient pas. Voilà pourquoi Jésus, à la fin de l'Évangile, nous invite à la foi. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Question ô combien terrible, car le malheur qui nous entoure aura-t-il raison de notre foi ? Peut-être chaque dimanche, nous professons, nous maintenons l'intégralité de notre credo. Peut-être sommes-nous dans une orthodoxie, c'est-à-dire une saine doctrine absolument rigoureuse, mais au plus profond de nous, la conviction que Dieu intervient dans l'histoire, intervient dans nos vies, intervient dans le monde. Peut-être que cette conviction est morte, ou pire, peut-être jamais née. Voilà pourquoi les lectures de ce jour vont nous aider à saisir l'enjeu. Dans la première lecture, ce sont les Hébreux qui viennent de sortir d'Égypte qui sont attaqués alors qu'ils sont complètement harassés par cette marche dans le désert. Ils sont attaqués par les Amalécites. Alors les Amalécites, ça ne nous dit pas grand-chose, mais ce sont les descendants d'Ésaü. Et Ésaü, c'était l'ennemi juré d'Israël, évidemment. Et les Amalécites, en sournois qu'ils sont, profitent de cet état de fatigue, d'accablement, de soif, pour attaquer l'arrière-garde, les fatigués, ceux qui traînent, une attaque lâche. Et que fait alors Moïse ? Eh bien, Moïse, il ne va pas au combat, il en envoie un autre. Il le voit, Josué va dans la plaine et combat. Moi, je vais monter sur la montagne et je prierai. Il se saisit du bâton, symbole de la force de Dieu. Il lève les mains et il supplie pour la victoire. Et la victoire lui est accordée. Moïse est convaincu qu'une force combat pour eux. Et on le voit, le vrai combat, ce n'est pas celui qui se passe dans la plaine, c'est celui qui se passe sur la montagne, le combat de la prière contre la lassitude, le sentiment d'inutilité. Mais la force de Moïse, c'est cette certitude que Dieu veut le salut de son peuple. Et ça, c'est du roc pour lui. De même, cette femme de l'Évangile, elle ne se décourage pas. Elle va faire la casse-pied auprès du juge, elle vient et elle revient jusqu'à ce que ce juge injuste, et bien finalement, pour avoir la paix, lui donne raison. Pourquoi cette femme, finalement, insiste tellement ? Parce que, comme on dit, elle sait qu'elle a la justice pour elle. Qu'est-ce que cela veut dire, avoir la justice pour soi ? Ça veut dire qu'elle croit que cette justice, c'est bien sûr son bon droit. Elle a raison. Mais elle croit aussi que cette justice, c'est une force invisible qui finit par triompher, un dynamisme secret qui conduit l'histoire. Et de fait, notre monde est travaillé par cette force invisible, cette force intérieure qui le guide, que nous oublions très vite, mais une force qui se déploie malgré tout à travers toutes les douleurs et les souffrances de notre monde, ne soyons pas naïfs pour autant. Je suis très marqué par un passage de notre règle de vie, nous les serviteurs de Jésus-Marie, qui dit la chose suivante. « Dans la joie de savoir Jésus glorifié, victorieux de la mort et du péché, en pleine puissance au ciel et sur la terre, nous puisons en lui et à tout moment la force d'accomplir notre mission parmi les hommes. Car nous sommes riches de cette expérience et nous témoignons auprès des hommes du but ultime de l'existence humaine. Et avec optimisme, cette fois un optimiste qui ne soit pas imbécile, de la valeur de leurs activités au sein d'un monde blessé par le péché, mais où l'Esprit Saint poursuit l'œuvre du Christ. Oui, chers frères et sœurs, c'est l'Esprit qui, dans les profondeurs de notre monde, poursuit cette œuvre du Christ. C'est lui qui permet aussi de donner une valeur aux activités humaines qui, sinon, sont absolument condamnées à l'insignifiance. De quoi sert de travailler pour le monde, de lutter pour plus de justice, de vérité? À quoi sert d'évangéliser? À quoi sert d'éduquer, vous, les scouts, si on n'est pas persuadé qu'au cœur du scout que j'accompagne, l'Esprit Saint est en train d'agir? Au sein de notre monde, il est en train de travailler pour qu'il y ait plus de justice, justement. Travailler sans cette conviction, c'est comme être Josué sans Moïse. Si le Seigneur ne construit la cité, dit l'Écriture, eh bien les bâtisseurs travaillent en vain. Ça ne sert à rien. Permettez une petite anecdote familiale. Ma maman me racontait ceci. Deux grenouilles tombent dans une barrique de lait. Et voilà qu'elles sont prêtes à se noyer. Et qu'après le moment de dépit normal, leurs attitudes, eh bien, elles vont diverger. L'une se dit, de toute façon, c'est fichu, personne pour nous tirer de là, pourquoi se fatiguer? Préparons notre monde, préparons notre mort et laissons-nous sombrer dans ce doux paradis laiteux. Tandis que l'autre se met à nager, elle fait des ronds dans sa barrique, rien ne se passe et puis elle commence à s'épuiser jusqu'à ce que petit à petit, sous ses petites pattes de grenouille, le lait devienne plus épais, se fasse plus résistant et que finisse par se former un bon morceau de beurre sur lequel elle peut prendre place et d'un bond sortir de sa barrique, trouver sa liberté et sauver sa vie. Alors vous pardonnerez cette petite histoire, mais prenez-la comme une parabole. Qu'est-ce qui a sauvé la grenouille? La conviction que quelque chose de la réalité était en sa faveur. Pour le chrétien, c'est cette action puissante de l'esprit. Le monde est gros, le monde est porteur de cet esprit comme une femme enceinte l'est de son enfant. Mais oui, il faut malgré tout quelqu'un pour l'aider à le mettre au jour, à en accoucher. Sinon, la vie ne viendra pas. Et ça, c'est le rôle de qui? Le rôle des hommes providentiels. Qu'on pense à un Jean-Paul II. Aurait-il osé, comme un David aux mains nues, affronter le monde communiste s'il ne se savait armé du nom du Seigneur et convaincu que l'Esprit agit dans le monde? Qu'a-t-il fait? En schématisant un peu, il lui a suffi de dire une parole. N'ayez pas peur. Pour réveiller l'audace dans le cœur de millions d'hommes et de femmes asservis par une idéologie destructrice et finalement la mettre à bas. Et que fait aujourd'hui le pape François? N'est-il pas en train de faire la même chose avec une autre idéologie délétère, un libéralisme effréné et inhumain qui fait des deux tiers de l'humanité les esclaves d'un dernier tiers, qui vit dans l'inconscience de son confort et le pillage de la planète? Mais il n'y a pas que les papes qui sont des hommes providentiels. Le chrétien et chacun d'entre vous, par définition, vous êtes un homme providentiel, une femme providentielle. Parce que le chrétien est celui qui, par sa prière et son action, permet à l'esprit d'être mis au jour. Par sa prière et son action, c'est par cela que l'homme pèse sur le monde. les deux sont indispensables. Josué n'est rien sans Moïse, qui prie sur la montagne. Mais Moïse n'est rien non plus sans Josué, qui combat dans la plaine. Et la grande difficulté du chrétien, c'est de maintenir cet équilibre essentiel. L'homme doit puiser toute sa force en Dieu, par la prière, la méditation de l'Écriture, comme le rappelle la deuxième lecture aujourd'hui, par les sacrements, mais agir en même temps avec toute son initiative humaine, par sa vertu, par son génie, par son habileté et même par son astuce. On est parfois frappé des paraboles du Christ. Le Christ, il est presque irrité de voir que les fils de la lumière penchent parfois du côté du bénet, du ravi de la crèche, du côté de l'ingénuité catastrophique et d'une forme d'abandon paresseux tout autant qu'inefficace à une providence qui n'existe pas. Au point que Jésus nous fait même l'éloge d'ingérent, malhonnête, mais au moins astucieux et entreprenant. Cette grande force qui sous-tend le monde, chers frères et sœurs, cet esprit qui travaille l'univers, d'où vient-il? Pourquoi nous est-elle donnée, cette force? Eh bien, cette force, elle vient de la croix. Moïse sur la montagne, quand vous l'avez sans doute remarqué, il étend les bras comme le Christ le fera au Golgotha. C'est la croix qui renouvelle le monde pour la durée des siècles et son action est contemporaine de chaque point de l'histoire humaine. D'où vient notre force? De la croix. D'où vient notre espérance? De la croix. Notre désir de nous livrer tout entier pour le salut du monde? De la croix. D'où vient enfin l'esprit? De la croix. Jésus nous invite à nous y associer. Je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église, dit saint Paul. Ce troisième élément, pour renouveler notre monde, après la prière et l'action, eh bien oui, c'est la passion, c'est la souffrance. Ne nous transformons pas trop vite dans notre monde occidental si douillet en ennemi de la croix du Christ, en illuminant la souffrance à n'importe quel prix, au prix des lois les plus terribles. J'y pensais, frères et sœurs, aussi, nous avons bien dans nos vies des souffrances à offrir. Et je pense particulièrement dans notre société occidentale et française plus particulièrement à la douleur de voir aujourd'hui la vérité captive de l'injustice, à ce spectacle désolant d'une jeunesse à qui on refuse systématiquement de donner des repères, à ces évidences de la loi naturelle qui deviennent des délits d'opinion. Cela, c'est douloureux, certes, mais nous avons le choix. Nous aigrir ou réagir, bien sûr, mais souffrir tout cela avec le Christ. Car le défi, c'est celui-ci. C'est qu'aucune goutte de cette souffrance ne se perde dans ces marées putrides de l'amertume, du désenchantement, du repli. C'est que chaque parcelle de souffrance soit reversée intégralement au trésor de l'Église. Alors oui, notre espérance tiendra bon. Alors quelque chose de nouveau pourra naître en notre monde. Que Notre-Dame de la prière, Notre-Dame de l'espérance, nous y aide. Amen.